Ciao.
A tutto.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus et bonne année à vous, évidemment. Oui, merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec Leïla Kadoumoudani.
Bonjour à tous.
Bonjour Hamzaoui. Daniel Morin.
Bonjour.
Tom Lila. Bonjour. Charlana qui nous accompagne au clavier. Bravo. Nos invités sont Sarah Forestier et Vincent Elmaz.
Bravo.
Avec Primaire, merci d'être là et tous nos vœux également. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas
inclus
dans ces vœux de bonne santé et de réussite. Eh ben la réussite.
C'est tout.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Qu'est-ce
après,
que vous
après,
voulez,
vous la
ça mettez... Je trouve ça tellement nul. À chaque fois, on nous parle juste du travail. Non, moi, je veux
de l'amour. La réussite, vous la mettez où vous voulez, la réussite.
D'accord. Ça me va.
Ça peut être dans la circulation à Paris. Ça,
si ouais. Circulation sanguine.
Voilà. Ça peut être la circulation intestinale. Ça peut être
dans les. Commence bien 2017.
Ouais, moi j'aime bien. Donc nous allons parler de primaire. Mais d'abord, je voulais savoir si Tom Villa. Enfin, j'ai peur que Tom n'ait pas bien compris pourquoi nos invités sont là.
Pourquoi j'aurais pas compris, Nagui? Déjà, bonne année. Déjà.
Hein, la tête que vous faites.
Non, mais si. Bah, si, on la base. On devait recevoir George Michael. Il y a eu un petit contretemps. Du coup, on a changé notre fusil d'épaule. Bonjour, Sarah Forestier. Bonjour, Vincent Elbaz.
Bonjour.
Alors, vous venez nous présenter Primaire. Voilà. Je rassure tous les auditeurs qui nous écoutent. Déjà, c'est un film. Et c'est sur l'école primaire. Et pas sur les primaires de gauche. Hein, le film est plus qu'à un euro. Mais je vous promets, vous allez passer un meilleur moment. Là, au moins, c'est bien écrit. Ça joue bien. Et il y a de la sincérité. Non. Primaire, c'est l'histoire de Florence, vous, Sarah, institut. D'une classe de CM2 qui se retrouve confrontée à la situation d'un élève. Voilà, c'est un vrai problème hein, qu'il a. Pas genre papa m'a laissé regarder TPMP ou comme l'école reprend mardi, je me suis tapé le lundi au boulot de papa, on embrasse Suzy. Non, là il y a des vrais problèmes, genre ma mère a oublié mon existence. Voilà. Là ça plombe l'ambiance, hein. C'est terrible, n'empêche, parce que il est pas vraiment abandonné, mais pas loin, le gamin. Elle lui donne juste sa maman une grosse liasse de billets pour manger. Les enfants de Nagui ont vu le film, ils ont pas compris pourquoi c'était choquant. Mais le gamin se fait repérer parce qu'il pue.
Oh,
et c'est là, on voit toute la cruauté des enfants.
Ça va, il a pas parlé de la puanteur, déjà, c'est pas
non, mais c'est vrai, non, le gamin pue, et c'est là où on voit toute la cruauté des enfants. Et c'est en revoyant le film qu'on culpabilise. Si ça se trouve, le gamin qui pue à côté de moi quand j'étais petit, bah, il était en difficulté familiale. Et si ça se trouve, certains membres de notre équipe actuellement sont en difficulté familiale, on ne sait pas. Alors Sarah, vous avez déclaré que si vous n'avez pas été actrice, vous auriez voulu être institutrice. Mmh. Voilà. Et puis quand vous avez vu le salaire, vous avez changé d'avis. non, mais c'est vrai, après avoir vu le film, on a envie de faire un gros bisou à tous les instituts de France.
Clairement.
Bravo,
ouais.
Bravo pour votre masochisme. En plus, on découvre aussi
mais
si, toute l'hypocrisie de l'éducation nationale. Le vocabulaire a changé. On l'apprend dans le film, on ne dit plus qu'un élève va redoubler, mais qu'un élève va se maintenir. On dit plus une rédaction, mais une production d'élèves. Maintenant, on dit aussi une remise en place du niveau d'écoute. Avant, on disait une tarte dans la gueule, c'était plus rapide. Hein, je pense que ma génération, on est les derniers à avoir vécu la petite violence scolaire. Moi, à mon époque, tu te prenais une baffe d'un prof, t'allais dire à ton père, il t'en remettait une deuxième, tu vois, pour te punir d'avoir été con en classe. Si le prof t'en a mis une, c'est qu'il y avait une bonne raison. Alors qu'aujourd'hui, un prof qui lève la main sur un élève, il prend 6 mois avec sursis. D'ailleurs, école ou pas école, la fessée va être interdite tout court. C'est Nagui qui est emmerdé. Dans les dîners chez lui, on passera direct du plat au café. Mais grâce au film, on se remémore.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un adepte de la torgnole en fait, ce mec.
Mais c'est vrai,
mais il va s'en prendre une avant que la loi passe.
Bah, on va t'en mettre une et puis tu vas être content.
Attendez, la fin de la chronique. Non, mais grâce au film, on se remémore tous des instituteurs qui ont marqué notre enfance. Dans mon école, il y avait monsieur Dutrex, qu'on a marqué plus d'un, surtout physiquement, saloperie de règles carrées. Surtout, lui, il changeait jamais ses cours et jamais ses contrôles. Ça fait 30 piges qu'il était là. Donc j'avais des potes qui avaient eu un frère ou une sœur plus âgée. Et 3 ans après, c'était exactement les mêmes contrôles. Ils avaient 20 sur 20. J'avais même une copine, je vous jure que c'est vrai, dont le père avait lui-même eu monsieur Dutrex. C'était déjà les mêmes contrôles.
Et le nom est vrai?
Bien sûr que le nom est vrai, l'embrasse. Sauf que bon, il avait quand même adapté le Congo belge et la Cochinchine n'existant plus. Du coup, elle a eu 3 sur 20. Mais moi, l'institutrice qui a marqué ma jeunesse, c'est madame Lajoie. Elle était super. Un peu gouailleuse, des futs en cuir, limite si elle fumait pas des gitanes maïs en classe. La fille cachée de Zizi Jean-Mère et du père Guy Gilbert. Zizi Gilbert. Du coup, quand elle était calme, fallait pas l'emmerder. Elle nous a fait notre premier voyage pédagogique au Futuroscope. Merci Françoise. En tout cas, j'ai vraiment adoré le film Primaire. Par contre, on est sûr que ça se passe au 21e siècle ou pas? Non, parce que pendant il y a un spectacle de fin d'année. Il y a un spectacle de fin d'année et les parents regardent leurs gosses. Mm-hmm. Ils filment pas. Donc il y a 2 options, soit c'est de la science-fiction, soit comme le film a été tourné à Grenoble, ils n'ont pas encore d'appareil photo sur leur portable.
Non.
Bref, Nagui, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais si vous aimez les institutrices, Vincent Elbaz en vendeur de sushi, et les films de très grande qualité, et bah, Primaire,
voilà
est fait
dit. Absolument. Merci Tom.
La boule originale. Nagui.
France Inter.
Tout est presque vrai. On va rajouter que il y a presque un parfum de documentaire dans cette fiction. C'est-à-dire que c'est, je sais pas si c'est la manière dont c'est réalisé ou le naturel du jeu, voilà, ouais. Qui fait qu'on a l'impression d'être dans la classe où ça se passe. À votre avis, ça vient d'où?
Ah mais c'est les enfants. Les enfants, ils étaient extraordinaires. Je sais même pas comment ils ont fait, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même
Ils ont quoi, 10-12 ans, ils ont quel âge?
Oui, ils ont l'âge d'être en CM2. La fille qui sait pas en fait, qui veut pas répondre. 10 ans en CM2 quoi.
Ils ont le bon âge.
En l'air doublant. Non, mais en fait, moi en plus j'ai l'habitude quand même d'avoir affaire à des comédiens maintenant. Je fais 15 ans que je fais ça. Un peu taré de faire ça pendant aussi longtemps, mais et pourtant quand je suis arrivée sur le plateau, j'ai dit mais ils ont été castés ou pas les enfants? J'ai l'impression qu'ils se connaissaient tous.
Tellement ils étaient justes.
Non, c'est pas ça, l'osmose. On dirait une vraie classe. C'était dingue. Et en fait, oui, ils étaient castés et ils avaient super bien fait leur job, quoi, c'est tout.
Eh bien, il y a le Denis, celui qui joue votre fils dans
Albert,
le film. Il déchire.
Ouais. Non, mais Bébert, c'est mon chouchou.
Il est incroyable. Bébert. Il s'appelle comment?
Albert.
Ça, c'est son... Non,
ça c'est son vrai nom dans la vraie vie.
D'accord.
C'est Denis dans le film.
Albert Cozy, hein, c'est ça?
Ouais,
je crois.
C'est un enfant
lui, il faut retenir ce nom parce que c'est un comédien incroyable. Il y a une scène où il s'énerve contre sa maman dans l'escalier. Ouais. C'est un plan séquence. On voit que ça a été fait d'un jet. Il est, mais bouleversant. Ça file la chair de poule. Il est incroyable.
Bah, c'est la scène qu'il a fait quand il a passé le casting.
Wouch.
Et moi, j'ai été bluffée quand il est venu. Parce qu'en fait, il a une intensité dramatique comme un adulte, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je trouve hyper beau dans la scène...
Il est sincère, tout simplement, oui.
Ouais, voilà. Bon, pour resituer, il joue mon fils. Et il joue donc mon fils dans les...
Qui est dans votre classe aussi.
Il est aussi dans ma classe. Mmh. Et il est un peu jaloux. Parce qu'effectivement, moi, je le fameux Sacha, qui est un élève en difficulté, qui est abandonné par sa maman. Bah, moi, en fait, je suis une instite qui est tellement passionnée qu'à un moment donné, je j'arrive pas aussi à me fixer de limites. Et le petit, au lieu de les laisser, bah, vous savez, comme quand on est en retard. Enfin, moi, mes parents étaient pas mal en retard quand ils venaient me chercher à l'école. On voulait chez la gardienne Micheline, moi elle s'appelait Micheline. Pour le coup, elle puait pour de vrai. Et en fait, je la laisse pas avec Micheline. Le petit, je le prends chez moi parce que je vis dans l'école.
Parce que vous vivez dans l'école.
Et en fait, voilà, j'arrive pas tellement à me fixer de limites avec ma vie privée. Et
non, mais par exemple, s'il a
et
une
mon
bonne...
fils est jaloux.
S'il y a une bonne réponse en classe, il lève le doigt, vous ne l'interrogez pas, vous interrogez toujours celui d'à côté pour ne pas qu'il soit favorisé ou pour ne pas prêter une attention particulière à votre fils pendant les cours.
Donc
lui, un sentiment d'injustice.
C'est le drame des enfants de profs dans leur classe.
Souvent, les profs refusent d'ailleurs d'avoir leurs propres enfants dans leur propre classe pour ce genre de choses. Et là, c'est exactement. Ce film.
Vous avez tout compris au film.
Ce film est prenant. Comment ce rôle vous est tombé dessus, Vincent Elbaz? C'est Hélène Angel vous a appelé?
Non, c'est la directrice de casting qui a pensé à moi pour ce rôle. Voilà, Hélène Angel n'avait pas forcément pensé à moi, mais on s'est rencontrés, on a fait des essais avec Sarah, et puis là, on a fait des improvisations, tu te souviens? C'était électrique un peu,
un tout petit peu paumé au début, on se demande même pourquoi il est là, sait pas trop.
C'est un mec qui a 45 ans, qui est un peu en loose, il est dans un moment de sa vie, il galère un peu.
Ouais, 35 ans, Vincent.
Quoi?
Il
est peut-être un peu plus jeune, parce qu'il a mangé un peu d'harissa quand il était petit, j'en sais rien. Mais voilà,
Vous faites 35 ans, franchement, vous faites pas 45.
Et puis il débarque dans cette école parce qu'il est appelé pour aller. Il est sur le numéro appel en cas d'urgence. C'est juste l'ex de la mère et on lui demande de récupérer ce môme. Et lui, il veut pas. Il a des retrouvailles un peu émouvantes avec le môme. Ça fait des années qu'il l'a pas vu.
Et il l'a élevé en plus.
Il l'a élevé à un moment de sa vie. Il a été séparé de cet enfant et il rencontre le personnage de Sarah.
Et dans le film, vous avez une belle formule sur la famille d'accueil. Enfin, une belle formule, une formule un peu désespérée.
Oui, il dit juste que sa mère, il y a famille et accueil, c'est deux trucs que sa mère lui donne pas et que ça lui ferait pas de mal de se retrouver à la DAS, quoi. Voilà. Ce serait peut-être mieux que chez lui.
C'est un truc que
le personnage de Sarah peut pas entendre, parce qu'elle, elle veut le sauver absolument sans passer par l'administration, la DAS et tout.
Ouais,
et lui, il lui dit, mais en fait, c'est un service à lui rendre que de l'aider à trouver un bon foyer, quoi.
Non, mais c'est des vraies problématiques, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'ai adoré, le scénario, je le trouvais génial et que j'avais envie de faire ce film. C'est que c'est des films où il y a des vrais sujets et des vraies problématiques, réelles, quoi. C'est-à-dire, déjà, un enfant, on n'a pas envie de lâcher l'affaire. C'est-à-dire, moi, un enfant, c'est-à-dire un adulte, déjà, quand on est passionné par ce qu'on fait et on est des métiers portés vers les autres, on a parfois du mal à renoncer, mais alors avec un enfant, c'est 10 fois pire. C'est-à-dire un enfant, c'est vrai, de se dire
un sentiment d'injustice quand
de renoncer, ouais. De se dire on va se dire allez bon bah il va aller à la DAS, on va faire qu'il sera plus avec sa mère, c'est hyper dur, surtout quand on est un professeur, c'est-à-dire il y a toute une part émotionnelle qui est là, on peut pas nier quoi, c'est en fait les profs ils ont affaire à de l'émotion. J'allais dire 24 heures sur 24, le lapsus. Mais, je sais pas, 10 heures sur 24. Ouais.
Et pourtant, dans le film, la prof craque. Ça remet en cause toute son,
Tellement. Voilà. C'est comme les gens très, très passionnés. C'est-à-dire que quand ça s'écroule, ça emmène tout. C'est comme effet boule de neige.
Mais est-ce qu'on peut faire bien ce métier si on n'est pas passionné?
Je pense qu'on peut pas tenir, surtout. Je pense que celui qui est pas passionné, il dure, allez, madame, un mois, deux mois.
La professeure. Puisque Leïla était prof. Alors, Leïla, ton opinion?
Bah, c'est compliqué, en effet, quand vous dites ça vous prend 10 heures dans la journée, je pense que c'est plus, parce que quand vous revenez à la maison, vous ramenez les élèves avec vous ramenez les copies avec vous. On a tous été, je pense, en tant qu'enseignants, confrontés à des situations où des enfants étaient en difficulté, où il faut les signaler, où on se demande ensuite quel est son positionnement, est-ce qu'il faut être plus proche d'eux en classe ou pas plus, parce qu'il ne faut pas non plus faire de favoritisme.
Quelle est la limite entre l'école et la maison aussi?
Et puis les enfants, souvent, ils sentent que quand on s'intéresse à eux, ils viennent, ils sont demandeurs, donc ils ne cessent de venir vous voir, jusqu'à un moment où on se dit on a franchi une limite qui fait que c'est embêtant, c'est gênant dans le lien qu'on entretient, parce que c'est quand même un lien pédagogique, et c'est ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on vous voit apprendre à apprendre aux enfants, et ça c'est très très beau, et pour avoir ce contact il faut aussi garder une petite distance avec eux.
Absolument, mais même comme dans la vie parfois on aime mieux les gens d'un peu plus loin en tout cas l'amour qu'on peut leur donner, c'est pas forcément en étant dans un truc fusionnel ou très proche, et c'est vrai que le personnage de Florence, à un moment donné, mais même vis-à-vis de son fils, elle va apprendre des choses. Moi, je trouve que le film, il parle de croire à nouveau aussi. Parce que c'est vrai qu'elle va avoir une crise de foi. À un moment donné, elle va tellement tout faire pour cet élève qu'à un moment donné, ne pas pouvoir le sauver comme elle voudrait, ça va tout lui faire tout remettre en question, et elle va se dire carrément j'arrête quoi, je suis pas faite pour ce métier, j'y arrive plus. Et moi ce que je trouve beau, c'est qu'elle va trouver une autre manière. C'est pas parce qu'on sauve pas tous les élèves comme on voudrait que tout est perdu, et je trouve qu'elle se remet à croire aussi à autre chose, parce que le film il parle pas que de l'école, ça parle de aussi des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et aussi moi je trouve que c'était un très beau portrait de femme. Et moi je trouve que c'est de manière subtile, dans le film c'est pas montré comme ça, mais par exemple, même le rapport, c'est une femme qui est divorcée.
Qui est seule.
Ouais, qui est, c'est vrai, seule, même sèche un peu, dans tous les sens du terme. Moi je trouve que c'est-à-dire qu'on sent que
rigide.
Même au niveau, même sexuellement, on sent que c'est le désert. Et déjà moi j'adorais cette idée, parce que je trouve qu'on monte pas beaucoup de femmes de 35 ans. On a une idée comme ça dans la société de consommation dans laquelle on est, que toutes les femmes de 35 ans doivent être épanouies sexuellement, on consomme les mecs comme ça sur Tinder et tout, alors que il y a plein de filles en fait, c'est la grosse loose. Moi je croise plein de belles gosses de 35 ans qui me disent que ça fait 6 mois qu'elles pas fait l'amour.
Dans quelle zone géographique vous êtes?
Un peu partout dans Paris, je me balade. Et je demande aux femmes si elles ont eu des rapports sexuels récents.
Moi aussi, je me prends des baffes.
Oui, parce que t'es mariée.
Viens avec moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc comme ça aussi dans le film, très juste sur l'idée d'une femme de 35 ans. Et par exemple, je trouve qu'elle a 35 ans, elle est divorcée. Et on voit qu'elle a du mal quand même à refaire confiance aux hommes. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dans la vie, quand vous êtes pris une bonne balayette, une bonne baffe en amour, un divorce, c'est dur de se relaisser aller à croire en des choses. Et je trouve que cette femme, en fait, dans le film, bon, ça va passer à travers son métier qui va cristalliser plein de choses.
Mais
il va y avoir une renaissance.
Elle est aussi bouffée par son métier.
Elle va tout mettre dedans, ça va cristalliser tout.
Mais justement, elle ne serait pas aussi investie, peut-être, pourrait l'être vraiment sincèrement, si sentimentalement, elle avait aussi une vie. Elle vit à l'école, elle descend, elle fait un étage, elle arrive dans sa classe, elle va nourrir le lapin le soir avec son fils. Enfin, je veux dire, il y a une forme de. Il n'y a aucune cloison, en fait, entre les deux univers. Et quand elle voit arriver le personnage masculin que vous incarnez, Vincent Elbaz, forcément, elle vous prend pour un homme irresponsable, parce que elle a aussi, je pense, psychologiquement un rapport aux hommes un peu compliqué.
Ah oui, elle s'est pris un gadin, quoi.
Sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur rencontre, elle est électrique.
Mais ce qui est chouette, c'est aussi que c'est le moment où elle perd un peu le contrôle, parce qu'elle est quand même tout le temps en train de vouloir tout contrôler dans tout le film jusqu'à.
Oui, cette la scène des crêpes, là, effectivement, elle ne se contrôle plus du tout.
Voilà, tout le monde ira voir la scène des crêpes en se disant que se passe-t-il? Eh bien, allez le voir. Ça sort ce mercredi. Ça s'appelle Primaire. C'est signé Hélène Angèle. On reparlera d'Hélène Angèle dans quelques instants avec notre invité qui publie un livre qui s'appelle Mise à nu du travail d'une enseignante.
enseignante, prof. Justement, c'est exactement ce que fait, ce que réussit ce film primaire qu'on vous recommande. Mais d'abord, parlons de nos invités, Sarah Forestier et Vincent Elbaz, parce que Leïla, vos oreilles ont sifflé quand vous avez su qu'ils étaient là.
Et oui, et immédiatement, quand je pense à vous, Sarah Forestier, je pense à votre incroyable capacité à incarner des femmes hors cadre. On vient de donner aussi un exemple avec cette femme de 35 ans, institutrice qui n'a pas de vie sentimentale. C'était le cas aussi dans La Tête Haute, et là c'était Puissance 15 d'Emmanuel Berco, où vous vous transformez en mère un peu perdue, inconsciente, aimante, mais distante.
Je suis juge des enfants. Je suis pas la police, vous n'êtes pas devant un tribunal. Un rôle, c'est de protéger les enfants dits en danger.
Eh ben garde-le, y'a pas de problème. De toute façon, bonne chance, parce que c'est un boulet pour tout le monde, ce gosse. Pas la faire entendre.
Je suis fatiguée de le suivre comme ça. Dans les commissariats, dans la justice, j'en sais plus.
Ma maman. Ma maman.
Putain, on va chialer là.
Voilà. C'est très très puissant, et de vous retrouver à jouer ça, finalement, c'est le pendant hein, dans primaire.
Ah, de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que là, je joue dans La Tête Haute la mère défaillante.
La mère totalement défaillante, mais aimante par ailleurs, mais à sa manière, avec ses armes à elle. Et même chose dans Suzanne de Catel qui les verrait, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Là encore, vous incarnez une femme, une jeune femme à la marge, qui fait des choix qui ne sont pas ceux, on va dire, du schéma sociétal habituel. Et tout ça pour vous dire que je suis jamais déçue de vous voir sur un grand écran, Sarah Forestier.
Ouf. Je suis contente de ne pas vous décevoir.
Voilà. Mais non, et c'est un, voilà, à chaque fois, je me dis, il y a Sarah Forestier, c'est un gage de qualité, je crois que je peux y aller les yeux fermés. Voilà,
ah bah non, c'est un film, tu peux pas. Bon, ok.
Tu sors. Quand je pense à vous, Vincent Elbaz, je vous revois dans un rôle de parfait manipulateur, et je vous aime bien aussi comme ça, dans Je compte sur vous de Pascal Elbé.
C'était bien, ça.
Allô ?
Votre président à l'appareil.
Mon président ?
Oui, votre président. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission.
Une mission, vous dites ? Pourquoi moi ?
Parce que j'ai une totale confiance vous concernant.
Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous participez à une mission d'État.
Tenez-vous prêt.
Avant l'intervention de mes hommes,
le virement est fait. Bravo, grâce à vous, cette entreprise terroriste va être mise en échec.
J'ai rien volé. J'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des concerts juste avec mon téléphone. Ou alors les escrocs, c'est ceux qui sont payés pour sécuriser les banques.
Qu'est-ce que c'était bon, ça.
C'était génial. Ah, donc je compte sur vous, si merci. Vous avez l'occasion de le voir, de Pascal Elbé. Donc vous incarnez cet escroc. Ça vous va bien, en fait, les rôles d'escrocs.
Ah bon, ok.
Non, mais autant je vous aime beaucoup dans primaire, parce que vous êtes ce mec un peu paumé, doux, qui, on le sent, a de l'amour à donner, mais c'est pas trop comment se positionner. Mais dans le rôle d'escroc manipulateur, vous êtes assez...
On aimerait vous voir prendre voler des sushis. On va voler des sushis un petit peu.
Je vends des sushis périmés.
Voilà, ouais. Du recette de
sushis.
Sont sushi.
Des personnages vachement très intéressants pour un acteur. Ouais. Plus c'est pervers, plus c'est tordu, plus c'est intéressant.
Ouais.
Après, il faut. Non, j'aimerais bien explorer.
Tous les rôles, en fait, pas spécialement les arnaqueurs, pas spécialement les mecs paumés.
Non, mais les escrocs, c'est vrai que sont.
Ouais. Mais ça fait du bien parce que c'est des trucs aussi qu'on s'autorise pas dans la vie.
Oui, c'est un peu.
Moi, j'aimerais bien jouer le Joker aussi, dans Batman. Le truc bien trash, bien pervers. Heath Ledger. Attention, j'y arrive.
Ben voilà, il y a un duo, il y a un truc, hein, Batman-Robin, un truc comme
Batman
ça,
et
non
Robin. Non, ouais, moi, je préfère le Joker. Hein.
Mais en tout cas, je me demandais, Vincent, dans votre filmographie, est-ce que vous vous êtes senti à un moment cantonné à un certain rôle? Ou pas, ou vous
moi, suscitez... Je trouve que j'ai beaucoup de chance, on propose plein de trucs différents, mais après, le fait de faire 2-3 comédies populaires, ça éloigne un peu du cinéma d'auteur, c'est un des regrets que j'ai. Mais après, en même temps, en France,
on... Il faut chier, en France, on est
pas
des
en France, on croise toujours des auteurs.
Pour être clair, c'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui vous
demandent
moins
de
venir dans leur film parce que vous avez fait des succès.
J'ai constaté que j'en faisais moins et que moi, je viens du cinéma d'auteur. Enfin, disons que je viens d'un cinéma où on demande aux acteurs d'être vrai, d'être authentique, d'improviser, de se laisser aller à toutes ces impulsions de jeu, etc.
Et ça
sans
vous
restrictions. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. Ça, moi, je m'empêche pas de faire ça sur une comédie, sur un film commercial ou sur entre action et coupé, je prends ma liberté. Je fais ce que je veux, quoi. Ouais. Enfin, en fait, j'en ai rien à foutre de.
C'est peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il vous engage plus.
C'est peut-être pour ça qu'il m'engage plus dans le cinéma d'auteur.
Elbaz,
non, mais moi, je trouve que c'est sa marque, en fait. Parce que
non, mais bon, voilà.
Non, mais en plus, un acteur, quand on a aimé, dans quelque chose.
Non, monsieur, il y a un rôle, monsieur, il y a des textes, il y a des livres.
Vous m'écoutez, je parle.
Oui, Sarah.
Excusez-moi, qui êtes-vous ?
Sarah, la prof. Tu m'écoutes. Sinon, je vais te séparer de ton voisin, tu vas voir.
Sarah, elle comprend ce que je veux dire.
Non, mais moi, par exemple, je l'avais vu dans Le Péril Jeune, c'était mon préféré. Et ça m'a toujours marqué. Et c'est vrai qu'un acteur, quand il vous marque dans quelque chose, après, peu importe son parcours, en fait, moi, Vincent, j'avais trop envie de travailler avec lui. C'était mon préféré dans Le Père et le Jeune. Et quand il a passé le casting, j'ai dit, je veux travailler avec lui. J'ai dit, je te donne pas mon avis, Hélène, hein, mais lui.
Tu fais ce que tu veux. Hein.
Et vous, Sarah, à l'inverse, est-ce que vous jouez plutôt dans des films dits d'auteur, on va dire ça comme ça? Est-ce que les comédies populaires, le fait qu'on vous en propose pas, c'est parce que vous n'en avez pas envie?
Vous en savez.
Ouais, je sais pas.
Non, on m'a proposé que j'avais pas aimé, en
voilà.
fait.
Ah, voilà.
Mais après, ça dépend aussi. Moi, j'aime bien. Par exemple, Le Nom des gens, c'est une comédie. Hein. Ouais. Et on s'était bien éclaté à le faire. Mais voilà, après, moi, j'ai écrit une comédie aussi. J'ai écrit, peut-être que je la ferai, un espèce de Tom et Jerry avec des vrais acteurs. Un truc un peu à la Dupontel, bien trash, bien vulgaire.
Un vrai chat, une vraie souris, quoi.
La fille qui s'est vraiment lâchée, oui. Donc peut-être que je la ferai.
Suspense. Voilà. Très bien, ça s'appelle en tout cas pour l'instant Primaire et ça sortira ce mercredi avec Vincent Elbaz, Sarah Forestier qui sont nos invités, mais aussi Patrick Dassoum-Sao, si je prononce bien, Guylaine Landès, Olivia Cotte, Lucie Descloseaux et Frédéric Bois-Moreau. Ça c'est pour les adultes. Côté enfants, l'excellent Albert Cousy, l'excellent Gilas Benjoudi, Jules Gaborio, Anna Brunt qui joue Charlie, qui est extrêmement émouvante, ouais. aussi parce qu'on n'a pas parlé de cette présence d'une enfant. Alors, j'aime pas dire enfant autiste parce qu'on met dans cette catégorie beaucoup de trop de choses. Il y a tellement de différentes formes d'autisme. Enfin, c'est une enfant qui a besoin d'une assistante scolaire à ses côtés, qui est extrêmement touchante. Ouais, ouais. Jouée par Guylaine Landès, qui est extrêmement
extraordinaire, ouais, formidable, ouais. qu'on a tous vu dans plein de choses. Ouais. Et moi, elle est méconnaissable. Elle est tellement vraie dans ce rôle. C'est...
Non, non, puis elle est bouleversante. Ouais, la scène à la fin, quand ça se retrouve, c'est waouh. Tara Dechaux, Lamine Mara, Timothée Fournier, entre autres, voilà, ça c'est pour les enfants. C'est un film qui est prenant parce qu'on sent aussi que Hélène Angèle est allée sur le terrain et d'ailleurs elle s'est imprégnée de ce qu'elle a vécu sur place pendant près de 2 ans dans une case de CM2 pour bien comprendre ce qu'elle allait filmer. D'où ce travail un peu de documentariste dont je parlais tout à l'heure. Et on parlera peut-être aussi, si on a le temps, de la manière dont ça a été filmé par Yvan Gelo, parce que c'est le choix des caméras et de la lumière donne une réalité, un réalisme pardon, au film absolument prenant. Ça sort ce mercredi. Voici l'humeur de Nora Mzaoui.
Merci. Là pour les encouragements. Ouais. Bah écoutez, je l'ai encore jamais dit et je peux vous dire que ça me fait pas du bien de le sortir. Je suis pas fière de vous l'annoncer, mais voilà, aujourd'hui ça va comme un lundi. Paf, voilà, c'est dit.
Oh non.
Comment commencer l'année avec une bonne expression de dépressif? Si, je le dis. Je dois avouer qu'avant je jugeais les gens qui utilisaient cette expression. J'en avais fait une catégorie à part, les gens qui bossent dans des entreprises de plus de 1000 salariés, qui ont les moins moites et qui font des afterwork et qui volent des critériums dans les placards à fourniture. Aujourd'hui, je suis carrément pour créer des variantes de l'expression. Ça va comme en janvier, ça va comme un samedi soir devant TF1, ça va comme après France-Portugal en finale à l'Euro. Ça tout de suite, ça vous parle plus. Hein.
Bah oui. J'ai enfin compris une expression.
Je pense à TF1.
Ouais, ça va comme un premier jour de solde quand je me rends compte que le pull que j'ai acheté la veille est soldé à moins 50% alors que la vendeuse m'avait dit ah non, celui-là, c'est un basique, on le soldera pas. Bref, ça va bien quoi. Non, mais faut dire que le mois de janvier est terrible. Encore ce matin, j'ai croisé une voisine dans l'ascenseur qui était dans le même état que moi et qui m'a sorti et encore attends, il paraît que c'est prouvé scientifiquement que c'est le troisième lundi du mois qui est le pire jour, le jour le plus déprimant de l'année. Non, mais comme si j'avais besoin d'une preuve scientifique ou de stats pour me taper une dépression quoi. Je te jure, insupportable, ces gens qui nourrissent leurs arguments de chiffres et de science, c'est eux qui vont t'expliquer pendant une turbulence en plein vol, quand les masques à oxygène tomberont, que mais si, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Insupportable. En plus, je suis pas du tout d'accord avec cette info-là, c'est le début janvier qui est le plus déprimant, pas la fin. Il est insupportable ce mois de janvier, c'est pas un mois, c'est juste la gueule de bois de décembre, t'as tous les restes des festivités, mais que dans le côté relou, des papiers cadeaux qui traînent, des cadeaux improbables qu'il va falloir foutre sur le bon coin, des restes de bûches au frigo, sans parler de la tranche de foie gras qui traîne dans une assiette depuis tellement longtemps qu'elle est devenue toute rouge et que même ton chat n'en veut pas. Et puis alors le sapin, quel enfer, le sapin avec le froid qu'il a fait, t'as tellement surchauffé ton appart, il est devenu tout sec et voûté. Là, c'est plus un sapin que t'as chez toi, c'est une vieille dame qui fait de l'arthrose que t'as eu la gentillesse d'accueillir pendant les fêtes.
Avec les boules qui traînent.
Attends, mais en l'enfer, non, elles sont toutes en train de tomber.
Bah oui,
je veux dire, non, mais je pourrais le foutre dehors, hein, évidemment, mais bon, ça me fait mal au cœur de virer une vieille dame comme ça chez moi juste après les fêtes. Il me fait tellement de peine, c'est terrible. Ce matin, en venant à la maison de la radio, j'en ai croisé plein sur le trottoir, il y en a un qui m'a fait chialer. Du coup, à un moment, je me suis surprise à lui chuchoter bisous, bon retour. Et comme j'ai vu que quelqu'un m'avait vu parler au sapin, du coup, j'ai fait genre, c'était pas au sapin que je parlais, mais genre juste toute seule comme ça. Donc j'ai répété dans le vide, bon retour, bisous, bon retour. Ouais, ça va super donc en ce moment. De toute façon, vous inquiétez pas pour moi, chaque année c'est pareil. Il y a une chute de morale une semaine avant Noël, un gouffre début janvier, puis ça remonte un peu à l'épiphanie, merci la frangipane. Je crois que le pire, c'est le 1er janvier, quand tu croises tous les gens à la pharmacie. Ah bah la bouffe tout le temps, un bon cheese nan de la frangipane et ça va mieux. Je crois que le pire, c'est le 1er janvier quand tu croises tous les gens à la pharmacie de garde en train de s'acheter de l'aspirine et de la citrate de bétaïne. Non mais franchement, ils auraient pas pu anticiper leur gueule de bois. Et toi qui dois te taper de faire la queue alors que t'as juste besoin de fleurs de bac pour arrêter de chialer à chaque fois que tu croises un sapin, je vous jure, ils me saoulent tous. Moi pour le coup, cette année pour le 31, j'ai décidé de rien faire. Alors je dis pas que d'habitude c'est la folie, mais bon, disons que je fais un peu d'effort, je mets une fringue avec un peu de lurex et tout. Là cette année, rien, mais rien du tout. Ah mais j'ai décidé de complètement assumer de rien foutre, un 31 tranquille chez moi en legging. Paf. Alors voilà. Wow. Et alors, non, mais très bien, alors, aucun problème. Je veux dire, il y a des gens qui disent ah mais tu sais, le 31, c'est hyper important de bien le fêter parce qu'il sera à l'image de l'année que tu vas passer. Enfin, sachant que ces gens-là, ils disent généralement ça entre deux chenilles, je me demande bien quel est leur projet pour l'année. Donc pour passer le temps, j'ai quand même invité quelques amis qui avaient décidé de rien faire non plus et on a décidé de tous rien faire tous ensemble en attendant minuit. Bon, et ben le temps est long hein, quand tu décides de en fait, ouais, c'est même là que je me suis aperçue qu'en fait rien faire c'est rarement une décision, c'est plus un état d'esprit, une façon de vivre, un truc qui s'est pas concrétisé. Donc là on était tous ensemble assis sur le canapé, à la fin on se demandait ce qu'on pouvait faire tous en se répondant que bah non, ben on a décidé de rien faire donc on fait rien. Du coup, on a passé pas mal de temps à mater les photos des gens sur Instagram qui faisaient la fête et quand on tombait sur un statut du genre gastro au lit pour la Saint-Sylvestre, on était oh là là, la loose son 31 lui. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, j'ai mon niveau bon esprit, j'ai pas tellement pris de résolution. En revanche, je vous souhaite d'être heureux, heureux comme un mercredi quand tu te rappelles que demain c'est férié et que tu vas faire le pont, comme après une commande McDo quand tu te rends compte qu'ils t'ont mis une frite en plus, comme quand tu te réveilles après avoir rêvé que t'avais perdu toutes tes dents et qu'en fait t'es trop content de les avoir encore. Ouais. Enfin bref, je vous souhaite d'être très heureux.
Merci.
Qu'on s'appelle Mehdi, la bande originale.
On va parler à 11h31 de la bande originale de Sarah Forestier et Vincent Elbaz. C'est-à-dire que nous avons pris quelques dates comme ça qui ont pu marquer votre vie ou votre carrière professionnelle et on va comparer ce que vous faisiez l'une et l'autre pendant cette année 86 où Vincent, vous aviez déjà envie de devenir comédien et 86, c'est la date de naissance de Sarah Forestier qui évidemment n'a aucun souvenir musical, si ce n'est peut-être le lieu de cette naissance. Attendez, c'est un blind test maintenant, il faut deviner. Où est-elle née ?
En Allemagne.
Non.
À Paris ?
Non.
Pas mal.
Autriche ?
Non.
Regarde ma tête.
Oh ben non,
la forme de mon visage.
Non, mais ça va pas, non.
Comment ça?
Moi, j'ai rien dit d'indécent. Je suis un dessin.
Au Vietnam.
Regarde mon visage.
Au Vietnam.
Non, mais on dit rien, surtout. On va se fâcher soit avec un pays, soit avec
vous. Bah oui, donc, non, puis
il y a un côté.
Ça fait un peu danois ce qu'on entend.
Tu en expliques pas.
Comment?
T'as fait un peu
il est pas bon, il est pas bon, il a un casque et dans en régie ils en avaient marre, ils ont fait dit Danemark, il y en a marre. Vous n'êtes pas joueur, c'est ça votre problème vous ici, vous n'êtes pas joueur.
Mais non, c'est qui c'était.
Non, mais l'information.
C'est long, ouais.
C'est l'hymne du Danemark que nous sommes en train d'entendre.
Hein. On l'a pas souvent entendu celle-là quand même. Hein.
Ouais. Non.
Mais version piano. Enfin, lente.
Oui, c'est ce que je veux dire. C'est plutôt voix.
Il s'y connaît en musique,
vous êtes né au Danemark, ce qu'on retrouve pas spécialement sur Internet. Vous êtes plutôt né à Paris, sur les Wikipédia et compagnie.
Oui, mes parents étaient en voyage. Enfin, ils sont restés un peu avant de se poser avec les enfants au Danemark, en Italie et tout. Donc, je suis né au Danemark.
D'accord. Et vous avez grandi à Paris, intramuros.
Oui.
Une vraie parigote, quoi. La vraie.
Mais si je veux, j'ai la double nationalité.
Waouh.
Et là, vous avez envie ou pas?
Non, en ce moment-là, tout de suite, non.
Non, pas là, non.
Pas là. En 86, Vincent Elbaz, écoutez ça. Ou pas. On n'a pas. Ah, on l'a pas. Très bien. Bon, il n'écoutait rien, alors.
Attendez, on m'a demandé 86. Avant que je vienne à l'émission, on m'a demandé 2003, moi.
Ah bon, d'accord.
Donc 86, j'ai écouté Cindy Lauper, je pense. Un truc comme ça, bien.
Oh, je sais pas. Peter Gabriel, peut-être, ça jamais.
Pas tellement. Ça passait. Mais
c'est quoi ces trucs? Je connais même pas les noms.
Pas Peter Gabriel là tout de suite.
Peter Gabriel, non, vous connaissez Peter pas Peter Gabriel,
Ça passait quoi. J'écoutais, mais. Ouais. Mais je préférais Cyndi Lauper. Ouais, mais Nagui, il avait très envie d'écouter Peter Gabriel.
J'ai compris. Non, mais j'ai bien compris que l'invité. C'est le seul morceau qu'on a eu.
Non, tout le monde a invité. On peut écouter des Bangles. On peut écouter aussi des Bangles si tu préfères.
Aucun regret, alors vraiment, à ne foutre. Hein. Les deux.
Bon, alors peu importe. Toujours est-il que vous avez fait du théâtre à la MJC de Chili Mazarin. Ouais. Vous avez appris quoi là-bas? D'abord, on vous a mis au théâtre parce que.
Est-ce qu'on m'a mis, on m'a mis au théâtre?
Oui, c'est, non, c'est
non,
la question.
C'est un choix. C'est un choix. Non, personne m'a mis un flingue sur la tempe pour aller à la MJC.
À 11 ans, c'est un choix, c'est pas les parents, franchement.
12 ans, non, 12 ans. 12, 12, ouais, enfin, 12 ans. Non, non, c'est un choix. Non. Mmh. Non, je voulais devenir acteur.
Voilà. À 12 ans.
Ouais, je sais pas pourquoi.
Bah mais... oui, mais pourquoi ouais, ça vous choque? Elle a, acteur. Elle a, t'as 3 ans.
J'ai fait une première tentative qui m'a pas plu à la MJC, effectivement. Et puis voilà. Non, non, mais je faisais une heure par semaine. Non, ça m'a ouvert des horizons, des portes sur le monde.
C'était alors génial. Quel a été le déclic? C'était, vous avez vu un film, il y avait un comédien que vous vouliez imiter, des posters dans votre chambre de,
non,
je sais pas,
si,
de
si, j'avais des
de
images
Lee,
de plein d'acteurs, j'avais des cassettes, des VHS de
quel genre de film?
De tout le cinéma noir américain, cinéma noir français des années 30, Gabin, Jouvet, Simon.
Ça c'est une culture familiale.
Humphrey Bogart. Ouais, c'est le ciné club. Non mais moi je suis de la génération du ciné club là, du dimanche du film du ciné club en noir et blanc. Donc voilà, j'ai vu tous ces films-là, évidemment, toutes les comédies, tous les cinémas muets. Enfin, moi, j'ai adoré le cinéma, hein, j'adorais ça.
En 2003-2004, Vincent Elbaz, écoutez Eminem. On va rappeler qu'en 95, donc, vous avez tourné dans Le Péril Jeune, où vous avez été, vous étiez remarquable, mais surtout remarqué par Sarah Forestier. 99, vous étiez dans Peut-être. Vous avez joué avec la piche toujours, ni pour ni contre, bien au contraire. Et là, sont comme des retrouvailles. C'est-à-dire que la piche était un peu votre protecteur, c'est votre parrain.
C'est la première fois que j'ai eu une expérience devant une caméra. C'est avec lui. C'est Le Péril Jeune. Ça m'a marqué. Je pense qu'on n'avait pas terminé d'explorer ensemble, de travailler ensemble. Je pense qu'il m'a énormément apporté. Il m'a fait
progresser. Quel rapport on a avec un réalisateur comme ça, celui qui est le premier à mettre le pied à l'étrier, qui vous retrouve
à chaque fois, j'ai eu envie de lui prouver autre chose. Donc bizarrement j'avais une pression à chaque fois que je retravaillais avec lui. C'était pas détendu du tout.
Incroyable.
Ouais, c'est marrant. Ouais.
Mais comme un prof qui vous jugerait, comme
Je sais pas, comme quelqu'un à qui j'ai envie de prouver voilà, autre chose quoi. Bizarre. Là, il y a qu'avec lui que ça m'a fait ça. Le reste
Même là encore aujourd'hui, vous tourneriez devant lui, vous seriez
encore
intimidé.
Je désespère pas de retravailler avec lui, mais je pense que je sais pas pourquoi. Je pense parce que c'était la première fois
ouais.
Que je jouais devant une caméra, que ça a été une révélation, que ça a été assez magique avec lui, le Péril Jeune, le tournage du Péril Jeune. Parce que je sais pas, il nous a demandé tellement que peut-être que je sais pas.
Dans 10%, vous avez passé une tête ou pas?
Non.
Il a réalisé, non?
Non. Non, mais j'aime bien la série, ouais.
Non, parce que je crois que c'est lui qui réalise.
Ouais, il a réalisé. C'est le directeur artistique, ouais.
Ah, pardon, d'accord.
En fait, c'est Lola Doyon qui a réalisé. Puis il y a d'autres gens, je crois. Ouais.
Non, vous pourriez faire un guest comme il y a beaucoup de guests dans
ça.
C'est une très belle série. À ce moment, Sarah, vous écoutiez.
Demain c'est loin, on n'est pas pressé, au fur et à mesure on avance, en surveillant nos fesses pour parler au futur. Le futur changera pas grand chose, les générations prochaines seront pires que nous, leur vie sera plus morose, notre avenir c'est la minute d'après.
Et c'est évidemment la rencontre avec Abdelatif Kechiche, avec l'esquive, où vous incarnez Lydia, cette jeune fille de cité qui répète une pièce de Marivaux. C'est un souvenir là aujourd'hui, j'allais dire... 2017, la première fois que je dis, c'est très émouvant. Quand vous replongez dans ces moments de tournage, dans ce que vous avez vécu avec l'esquive, ça a totalement retourné votre vie.
Ah ouais, c'était intense, c'était bon quoi. C'était jouer toute la journée, ce que je rêvais de faire quoi. C'est-à-dire jouer la comédie toute la journée avec un metteur en scène qui est un génie, quoi, donc qui vous donne un terrain de jeu extraordinaire.
On dit tout et son contraire de lui.
Oui, bah parce que c'est un génie, il est incompris, c'est génial. Je m'en fous, moi, de comprendre les gens. Ça m'intéresse pas de comprendre. Je veux vivre quelque chose avec la personne, et lui, c'est... On se sent plus que vivant, quoi. C'est vivifiant, je sais pas quel mot on pourrait inventer, mais c'est... c'est comme une grande histoire d'amour, quoi. C'est les choses qui vous marquent. Alors après, qu'il y ait de la douleur, oui, mais tout est douloureux dans la vie. Tout est douloureux. Quand vous faites une grande histoire d'amour, ça vous fait mal aussi, mais on prend des risques quand on peut vivre des grandes choses. Donc c'est un génie, et voilà. Et mais moi, cette musique, je peux parler de la musique ?
Je vous en prie.
Parce que c'est quand même bon original, le titre de l'émission. Non, mais cette musique, en fait... je vous regarde.
Oui, c'est très bien. Ramène au concept.
Cette musique, elle me fait penser, en fait, parce que sur le tournage, j'étais avec un mec... qui était... C'était génial parce que j'étais adolescente. Attention, j'avais 15 ans et je sortais avec un mec de 24 ans. Un gros lascar. Et il avait une Twingo rose. C'était mortel. Il venait me chercher au lycée avec sa Twingo rose et je me la racontais. Et il écoutait cette musique en boucle. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et en fait, pour la petite histoire, ce garçon, en fait, je me suis rendu compte, j'ai vécu une histoire d'amour avec lui pendant 6 mois, mais moi je le voyais comme un dieu, quoi. Il avait 10 ans, presque 10 ans de plus que moi. C'est lui qui m'a fait découvrir la sexualité et tout. Il était incroyable, animal et tout ça. Et en fait, après l'histoire d'amour que j'ai vécu avec lui, je me suis rendu compte qu'il savait pas lire. Et moi je l'ai appris, en fait, après coup. Et ça a été le point de départ du film que j'ai réalisé, ouais, là.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, du coup, je me suis séparée de lui pendant le tournage de l'Esquive. J'ai appris qu'il savait pas lire, ça m'a choquée parce que pendant 6 mois, il me l'avait caché. J'en ai parlé à Abdel en lui disant, faut faire un film sur ça. Et 15 ans après, c'est le film que j'ai réalisé. Voilà.
Ah d'accord, une belle histoire.
Il n'y avait pas de SMS à l'époque et tout ?
Non, pas encore.
Non,
mais c'était génial parce qu'en fait, il travaillait dans une banque.
Il y avait des tatous ?
Si,
non, non,
non, mais
pas
des échanges
encore.
Entre eux.
Ah, il n'y avait pas d'échanges.
Non, il y avait des échanges, mais plus...
Ouais, on ne pas tout savoir.
Voilà. Et en fait, il gardait une banque la nuit.
D'accord.
Alors que c'est un cambrioleur en plus, c'était génial. Donc, il gardait une banque la nuit, donc j'adorais.
Vous êtes à l'antenne, Sarah, tout ce que vous dites.
Son nom pendant qu'on
ça, c'est pas grand chose encore. Et donc, bref. Et donc, je me retrouvais dans le truc. En plus, c'est la BNP aujourd'hui, la Grande Avenue
d'Opéra. Arrêtez, Sarah, arrêtez.
Et donc, on était là. Et donc, attention, on avait 4 étages pour nous. Et donc, dans la BNP, on était là-bas, on passait des nuits entières là-bas.
Que vous montiez
là-bas. On en a français les prospectus.
Et j'adore parce que le mec, il savait pas écrire, mais il taguait. Ouais. Et en fait, il avait appris des lettres par cœur. Et il me disait comme ça, il me disait, attends, je vais faire ma ronde. Et bien sûr, il faisait pas sa ronde. Et il tournait la tête pour faire un rond comme ça en disant, je fais ma ronde. Et après, il mettait RAS, rien à signaler. Et il écrivait juste RAS sur son papier. Donc moi, je croyais qu'il savait écrire parce qu'il avait écrit RAS quand même. Et en fait, non, c'était, il écrivait en tag.
Et vous viviez votre romance la nuit dans la banque fermée.
Ouh, c'est un peu folichon. Oui, c'était pas grand chose, oui, mais oui.
C'était pas grand chose, enfin, moi, je veux dire, pour la.
Pour la légalité.
Je veux dire, pour le commun des mortels, c'est pas un lieu
d'action. Souvent, à 15 ans, tu vas pas
ouais,
chez toi.
Ouais, c'est devenu une grande banque BNP. Ouais. À chaque fois que je passe devant, je pense à Mohamed.
Allez, elle a chuté, allez, c'est bon.
Vous avez essayé auprès de la BNP de négocier pas d'agio, pas de tout
ça. Attends, non, en plus, j'ai parlé de. Ouais, bon, bref, non, je suis nul en ça. En oseille, je suis très nul.
En 2007, Vincent Elvaz, écoutez. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon, ça.
C'est une musique d'escroc encore, ça.
Mais non.
Pourquoi je l'imagine, toi, mais
si tu vois des cabriolets, des grands cuirs.
Je le vois en film cambrioleur.
C'est ton fantasme, ça.
Bah oui, mais je sais pas, mais je le vois en escroc tout le
je
temps.
Je sais pas.
Il y a un truc avec les escrocs autour de cette dame, non.
Ouais, j'ai toujours Janis écouté Joplin. Ça. Ouais. J'écoute ça depuis que je suis môme.
Il y a un groove incroyable.
Ouais.
C'est l'une des blanches qui chante le plus comme une noire en plus. C'est, ouais, ça, qui est, ouais, c'est ça qui est fort et qui fait partie de ce triste club des 27. C'est-à-dire
oui,
ceux
non,
qui sont morts à 27 ans.
J'étais modèle moi quand j'étais petit. Elle avait une pochette de disque avec elle sur une Harley avec des lunettes violettes. Comme ça.
Ah, ça fait les cheveux longs et le bandeau dans les.
Il y a un truc avec les motos, toi.
Ça fait très, ça fait très BNP là dans le son. Il y a un truc avec les motos.
J'ai écouté ça depuis que j'ai 6-7 ans. C'est mes parents qui écoutaient ça. Donc. J'ai toujours écouté ce morceau.
Mercedes-Benz aussi.
Oh ouais. Lord,
only ouais, by me, ouais. Mercedes-Benz. Vincent, vous tournez... Enfin non, pardon, vous êtes mis en scène par John Malkovich en 2007. On parlait tout à l'heure de la manière dont Clapiche était impressionnant, ou dans votre rapport en tout cas. J'imagine que se retrouver dirigé par Malkovich...
Ça m'a pas fait ça avec Malkovich. J'étais plus à l'aise avec Malkovich, bizarrement. Mais je sais pas.
Il n'y a pas l'aura de...
Non, c'est-à-dire que si,
la reconnaissance
fois,
mondiale.
Je
ne
connaissais pas. Non, mais c'est comme quand on tombe quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà, on se fait connaissance, on se renifle un peu comme ça, voilà. Mais et puis
sur un plateau de théâtre, je savais que de toute façon, je pouvais pas lui mentir. Enfin, à un moment donné, il allait tout voir, tout. Donc, toutes les lacunes, tous les défauts, tous les. Donc, j'avais pas peur.
C'est marrant de dire ça.
J'avais absolument pas peur.
Je peux pas mentir parce que.
Je me suis montré tel que j'étais.
Le premier boulot d'un comédien, c'est peut-être de mentir. C'est de jouer, c'est de feindre, c'est de prétendre.
Non, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique dans des circonstances qui sont fictionnelles. C'est ça le problème. Donc c'est pas de mentir, au contraire.
Ouais, au contraire, ouais, c'est de s'arnaquer soi-même. Bah, vous parliez d'arnaque, on s'arnaque soi-même pour se faire croire. Ouais. On passe notre temps, en fait, quand on est comédien, à essayer de s'arnaquer pour se faire croire que ce qu'on vit est vrai, sur le moment. Mmh. Et ça, c'est génial.
Et il faut traverser cette expérience pour de vrai, quoi. C'est ça qui est...
Qui vous impressionne, ou pourrait vous impressionner maintenant, si vous rencontrez... On parlait tout à l'heure de l'impact ou de l'effet quand vous croisez Clapiche ou Malkovich.
Non, mais moi, je suis toujours... Enfin,
vous êtes toujours impressionné?
Quelque part, je suis toujours impressionné par l'autre. Hein. L'autre m'intéresse. Voilà, je le vois avec un grand A, l'autre. Hein. Donc, je suis toujours impressionné par l'autre. Moi, comment dire, les autres acteurs, les autres. Ils m'intéressent, ils m'impressionnent. Voilà. Après, il faut que je me fasse violence pour les bouffer.
Ça s'est passé comme ça avec Sarah ?
Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas. Oui, bien sûr. Il y a un moment donné, il y a un rapport qui s'établit, qui peut être un rapport de force, mais c'est pas forcément comment dire. C'est dans se laisser envahir par l'autre, quoi. Faut se laisser faut recevoir tout ce que l'autre a à donner. Et pour recevoir ça, faut accepter d'être vulnérable, d'être je sais pas. Enfin moi c'est comme ça que je travaille, quoi. Et puis surtout d'être honnête, c'est-à-dire dans une scène, j'aime pas tellement moi les partenaires qui planifient leurs petits trucs avant de jouer là, et qui vous servent leur sauce là, tout préparé là, c'est des petits plats tout faits là, j'aime pas tellement
ça. Vous pensez à quelqu'un en particulier ?
Non, mais on a tous tendance à faire ça des fois quand on n'est pas rassuré, on prépare son truc, on se dit ah, je vais la jouer comme ça, etc. Et moi je trouve pas ça très honnête. Et moi quand je le fais, j'aime pas, je me déteste de faire ça.
Vous voyez la différence entre les comédiens qui sont coachés et ceux qui sont comédiens sans être guidés ?
Je sais pas. Ah, j'ai jamais su si un acteur était coaché ou pas en face de moi.
Ouais, c'est bizarre parce que tu vois, moi par exemple, je prévois grave à l'avance.
Ah ouais.
Non mais c'est vrai.
Bah moi j'aime pas faire ça.
Mais... Ouais.
Oui, mais visiblement, vous l'avez pas.
Moi, j'aime bien, là, moi. En fait, c'est bizarre, c'est de réussir à faire ce que j'avais exactement prévu.
À être vrai là-dedans. Hein.
Mais qu'il y ait un moment de lâcher prise dans ce truc-là. C'est tellement bizarre, quoi. C'est-à-dire, on prévoit un truc bien précis. Moi, par exemple.
Ouais, mais tu prévois. Oui, d'accord, mais tu prévois, mais quand
vous êtes pas rendu compte sur le tournage.
Quand on refait sans couper.
Voilà.
Il y a un moment donné, est-ce que tu lâches? C'était pas prévu. Que tu lâches, je t'ai vu faire.
Ouais, mais c'est bizarre parce qu'en fait, les meilleures prises, c'est souvent. Enfin, il y a ce. Enfin, bon, bref, on s'en fout.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous deux, 11h46. aujourd'hui.
Les meilleures prises, vous voulez dire, c'est quoi? C'est plutôt.
Je parlais de rapport de force.
C'est plutôt les premières, vous pensez, celles qui
non,
sont.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je sais pas. Non. Oui, moi, j'ai un truc. Je sais pas. Par exemple, quand j'ai fait le casting de La Tête Haute. Ouais. J'avais prévu un personnage comme ça, puis au final c'est le personnage qu'il y a dans le film, donc j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire, du rôle, et puis le tout c'est d'arriver à faire cette chose-là précisément, avec en même temps un lâcher prise, pour qu'il y ait à un moment donné un espèce de truc en suspension, quoi, qu'il y ait une petite magie qui puisse rentrer, mais en même temps si je suis à côté, je sens que si je fais pas ce que j'avais prévu initialement de manière simplement en termes d'idées, à chaque fois, c'est à côté, c'est pas intéressant. Donc le tout, c'est d'arriver à faire l'idée que j'avais en tête et qu'en même temps, il y ait de la magie. Mais bon, c'est pas très intéressant.
C'est complexe.
C'est intéressant. C'est pas clair, mais c'est intéressant, ça.
Je m'en fous, je bois mon.
Non, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de construire, en fait. C'est-à-dire le fait d'être vrai et authentique et pulsionnel. Parce que Sarah, elle est quand même vachement impulsive sur un plateau. Moi, ce que j'ai vu, c'est des.
Elle a pas l'air d'être d'accord.
Non, mais c'est bizarre.
Mais là, elle peut rien dire, elle a la bouche pleine.
Non, mais entre ce qu'on ressent de l'intérieur et ce qu'on voit de l'extérieur, c'est il y a deux mondes, quoi.
Ouais, exactement.
Moi, j'ai joué avec une actrice. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir travaillé avec une actrice qui est très, très sur l'impulsion, quoi. Qui récite pas son texte, qui dit pas
c'est
son
sentiment
texte.
C'est le sentiment qu'on a, nous, en tout cas.
Qui incarne tout ce qu'elle fait.
Absolument, ouais. Voilà. C'est le sentiment qu'on a, nous, en
voyant ça. Moi, je vois mon scénario, j'ai des annotations de partout. Alors, elle est sèche sexuellement, elle a fait l'amour depuis je sais pas combien de temps.
Faites la Bible de votre personnage pour savoir quelle est son humeur en fonction de la situation.
Oui,
après,
donc,
vous vivez la situation.
Préparé.
Oui, vous préparez l'environnement et après, la situation, vous la vivez dans son jaillissement.
Par exemple, quand on dit action, j'ai pas vu quelqu'un qui planifie. Il planifie à l'instant T. T'es dans le moment.
Je t'ai bien arnaqué.
Voilà. Peut-être. C'était une escroque.
Allez juger par vous-même. Le film s'appelle. Le film s'appelle Primaire et il est réalisé par Hélène Angèle et c'est d'elle dont je voudrais que nous parlions avec Audrey Chaplin. Merci Audrey de venir à ce micro. Vous signez chez L'Harmattan, mise à nu du travail d'une enseignante. Pour résumer, vous êtes professeure de lettres classiques, formatrice également, bénévole au sein de la FEPS, c'est-à-dire que vous aidez les autres à devenir prof.
Non, la FEPS, c'est l'Association française des enfants précoces. Donc c'est pour aider un certain profil d'enfants.
Plus doué que d'autres.
À une intelligence en tout cas différente.
Voilà. Vous n'aimez pas dire doué pour précoce.
Précoce. Enfin, il y a beaucoup de une terminologie très vaste pour parler de la précocité. Précoce, ça laisse entendre que l'enfant est en avance un moment et qu'il ne sera plus après, alors que c'est un fonctionnement cognitif différent. Quand on est précoce, on meurt précoce. Donc, de parler d'un adulte précoce, c'est un peu...
D'accord. Vous racontez au début de votre livre des anecdotes, notamment celle de la secrétaire chez chez un notaire, qui vous dit, quand vous annoncez votre profession, « je hais les profs ».
C'est ça, c'est véridique. Hein.
C'est d'une violence inouïe.
Mais c'est très violent d'être prof.
C'est très sectaire déjà, de mettre tout le monde dans le même sac.
Je parle aussi d'un banquier, voilà, donc c'était il y a une dizaine d'années. Donc avec mon mari, on achetait une maison.
Avec la vanne de toujours en vacances, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc on est passé, On est passé par les dossiers administratifs communs. Et voilà, et aussi bien à la banque, on m'a chambré sur les vacances. Mm-hmm. Que cette secrétaire qui m'a dit je hais les profs et je suis restée pendant des années démunie et j'ai eu honte de dire que j'étais professeure voilà parce que c'est dur de se prendre
évidemment
voilà surtout quand on est comme Sarah ou Florence dans le film très investie et que voilà ça nous semble terriblement injuste ah mais tu n'as pas le temps de faire ci mais tu fais que 18 heures pourtant
alors au fond c'est pour les enfants qu'on le fait c'est pas tant pour les gens.
Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais sur le coup, quand vous entrez dans la carrière,
j'imagine que ça fait mal. Ouais, ça fait mal
d'entendre ça régulièrement. Et puis, faut se préparer. Ouais. Puis après, avec les années.
Alors, comment définir le métier de prof justement? Est-ce que c'est comme dans le film? Enfin, on pose la question, on connaît un peu la réponse, mais on l'entend de votre bouche et votre version. C'est sans frontières, sans limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est effectivement que le film rend vraiment compte et l'interprétation de Sarah, à travers ce personnage de Florence, l'incarne parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a l'investissement total de la part du professeur. Aujourd'hui, les médias, etc., véhiculent souvent une autre image, les souvenirs que garde.
Je me retrouve dans l'entre-deux, en fait. Moi,
je suis journaliste.
Voilà, je me dis,
Non, pas nous, pas dans cette émission. Non. Entre elle, prof, et moi, fils de prof, je peux vous garantir que les profs sont bienvenus ici.
Je sais. Mais bon, quand on entend beaucoup de choses sur l'école, sur le manque d'investissement, etc., c'est pas évident. Là, le film apporte un tout autre éclairage et une toute autre vision des choses. Donc, ça fait énormément plaisir. Après, effectivement, on a beaucoup, en tout cas moi, ça a été mon impression de pitié, d'empathie pour cette prof qui se dévoue et qui sacrifie complètement sa vie personnelle. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu les deux, c'est-à-dire à la fois la passion, l'investissement démesuré de ce professeur. J'ai je fais des amalgames entre Sarah et Florence, mais
oh non, pas de problème.
Voilà. Mais comme Florence lui a envie de quitter l'éducation nationale aussi, je comprends également les professeurs comme les collègues de Florence dans le film qui disent mais moi c'est pas mon métier parce que c'est une façon de se mettre à distance, de se protéger face à toutes les problématiques qu'on a parfois du mal à prendre en compte
et qu'on nous apprend pas.
Et qu'on nous apprend pas.
C'est ça, en fait.
Ouais, mais comment apprendre?
Il y a des scènes de...
Je peux te poser une question?
Oui.
En fait, je peux te tutoyer?
Ah ben oui.
Ça te dérange pas?
Alors, non, pas du tout.
Toi, en fait, quand t'as commencé à être prof et tout, t'avais déjà des enfants ou pas?
Non.
T'as des enfants maintenant?
Oui.
Et est-ce que, c'est une question, est-ce que tu t'es attachée à des enfants, limite un truc, tu sais, t'avais ton chouchou et tout ça, et genre, qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais je m'attache trop parce que tu passes plus de temps aussi que les parents passent de temps avec leurs enfants.
Eh ben, pas vraiment. En fait, effectivement, le fait de devenir maman m'a aidée à prendre plus de distanciation. Et je pense que ce qui manque à Florence et ce qui doit faire qui est important pour chaque professeur pour tenir sur la durée, c'est d'être passionné, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est capital, sinon on ne tient pas. Hein. Voilà, si tous les matins on se lève et qu'on n'a pas envie de voir les élèves, c'est pas possible, c'est ingérable. Ou alors ces profs-là sont en souffrance terrible.
Là, on parle plutôt des maîtresses institutrices, voilà. C'est-à-dire celles qui sont vraiment du matin au soir avec la même classe, ouais. Ce qui n'est pas le cas après dans le collège ou le lycée.
Moi, je n'aime pas qu'on cloisonne primaire, secondaire, c'est exactement le même
vous
métier.
Vous ne restez pas le même nombre d'heures avec les mêmes enfants.
Oui, mais bon, quelque part, je travaille beaucoup avec des collègues du primaire, donc je pense pas du tout trahir leur pensée. Mais c'est pareil, nous, les heures s'enchaînent, on change de classe, c'est un côté beaucoup très violent d'avoir cette sonnerie toutes les 55 minutes.
Je parlais que de l'attachement voilà. avec l'élève.
Ah oui, d'accord.
Quelle est la définition pour vous d'un bon prof, justement?
Alors là, c'est dur. Donc, c'est quelqu'un, je pense, de passionné, mais qui, comme dans le film, mais qui arrive à prendre de la distanciation aussi. C'est-à-dire, Florence, dans le film, elle s'implique et quand elle échoue, elle se culpabilise. On a des responsabilités en tant qu'enseignant qui sont énormes, mais en même temps, on n'est pas coupable de nos échecs.
Quand on est passionné, on est forcément passionnant. Parce que moi, les souvenirs que j'ai de mes bons profs, voilà. C'est plutôt les profs qui sont passionnants, pas ceux
là,
qui sont passionnés, j'en sais rien.
Là, faudrait interviewer mes élèves.
Non, mais voilà. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que d'un coup, un prof, on n'est pas bon ou mauvais dans une matière. C'est le prof qui nous encourage et qui nous donne de l'appétit ou pas de sa matière.
Quand on est passionné, je pense qu'on arrive à créer quand même un climat de classe où les élèves sont déjà pas récalcitrants. Ils sont contents. Enfin, moi, la seule... je pense, chose que je puisse affirmer, c'est que mes élèves, quand ils arrivent en classe, arrivent avec le sourire. Et bien sûr qu'il y a des matins, comme chacun d'entre nous, où ils seraient bien restés au lit, etc. Mais on arrive
nous
à créer...
aussi.
Voilà, mais oui, attends.
Tu es favorable au châtiment corporel?
Pas du tout.
Est-ce qu'on ne demande pas aux professeurs, finalement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, d'être à la fois prof, psy, assistante sociale, conseiller d'orientation, parent de substitution, tous ces... Tout à la fois.
Il y a beaucoup de problématiques, donc forcément...
Infirmière aussi.
Oui, mais après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une grande horlogerie. On est dans un grand mécanisme, on n'est pas seul. Est-ce que, je pense, le travers de Florence dans ce film, c'est qu'elle agit seule. On n'est pas seul, on est quand même dans une grande institution, alors que parfois on va qualifier de mammouth, etc. Mais si on apprend à bien connaître cette institution...
Parfois, il y a un ministre
Mais le ministre...
Qui a employé l'expression mammouth, on va... Ça,
oui,
on va
mais bon, plus. Après... Peu importe à la rigueur,
l'administration qui peut avoir ses lourdeurs, ça, on va pas le cacher.
Voilà,
comme dans tous les domaines.
Il y a tellement d'acteurs, c'est-à-dire que vous pouvez taper à une porte, si ça répond pas, il y en a une autre. Et là, Florent, je pense que le travers dans lequel elle tombe, c'est qu'elle agit seule et
parce qu'avec ses collègues, elle se heurte à une, elle s'entête parce qu'en fait, elle se heurte à une différence, quoi.
Oui.
Une manière
mais
de voir
exemple,
complètement différent avec ses collègues, elle s'engueule même à un moment
bien
donné.
Bien sûr. Et elle a raison. Maintenant, quand l'inspecteur vient, bon, il a pas l'air formidable. Cet inspecteur, mais il n'a pas l'air méchant non plus. D'ailleurs, il voit son mal-être, il lui propose... Là, il y avait quelque chose à faire. Elle ne verbalise pas du tout. Elle n'appelle pas l'institution au secours.
Ah oui, elle est dans une forme de crise là, à ce moment-là. Ouais.
Voilà, il y a quand même une institution, même dans le primaire, il y a quand même le médecin scolaire, il y a quand même...
Mais c'est pas une erreur, par contre. Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est pas une erreur de la réalisatrice.
Ah non.
C'est un choix.
Bien sûr.
Choix de narration.
Ah justement, parlons d'élèves.
De faille d'un personnage.
Elle est réellement restée 2 ans. Elle a suivi pendant 2 ans une classe de CM2.
Sarah, elle a
oui,
pu...
Oui. Elle a été dans une classe et puis elle a suivi un peu. Bah, c'est pour ça que le film est tellement dans les détails comme
ouais.
ça, quoi.
Ouais, elle a passé 2 ans.
Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que elle me disait, moi, ça m'a fait mal au cœur, ça. Que c'était vraiment assez courant, quoi. L'histoire de mère qui abandonne comme ça ou de famille. C'est
alors,
triste.
La chance qu'elle a Florence dans sa classe, c'est qu'elle a qu'un enfant comme ça. Enfin, moi, je vous assure, j'enseigne en REP et. Enfin, je vais me faire le porte-parole de plein d'enseignants, mais quand je regarde ma classe, souvent, je me dis, mon Dieu, mais la plupart d'entre eux ont déjà une histoire personnelle 10 fois plus lourde que la mienne. Moi, je viens de perdre ma grand-mère, voilà, le seul drame de ma vie, à l'âge de 36 ans, en février. Eux, quand vous regardez leurs dossiers familiaux, c'est lourd, c'est très lourd. Effectivement, on a des parents qui sont démunis, qui sont défaillants, qui sont pourtant aimants.
Absents, peut-être. Aussi.
Voilà, absents, ouais. Ou alors démunis, effectivement.
Mais vous rendez compte, la chose qu'on... Enfin, moi, je trouve que c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire ce film aussi, c'est que la beauté de votre métier. Non, mais franchement, moi, j'ai une admiration incroyable pour votre profession, sincèrement.
Merci.
Et ce que je trouve fascinant, c'est que, justement, l'enfance,
on peut vivre des grandes douleurs qui nous marquent à vie, mais on a un potentiel de vie.
Mais bien sûr.
Vous avez vu comme après quand on a même 30 ans, on se prend un gadin, on a du mal à se remettre. Mm. Quand on est enfant, on se peut se prendre des bonnes raclées, mais on a quand même encore un potentiel de vie. On va cicatriser et essayer de continuer à vivre, etc., etc. On pleure. Deux secondes après, on peut être mort de rire, on c'est mange ça. Une glace et on est hyper content quand on est enfant. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est que malgré ces souffrances qu'on peut avoir, l'école, ce que ça peut apporter, et votre métier, les enseignants, c'est tout d'un coup aussi un truc avec l'estime de soi.
C'est ça.
Ça, c'est sublime. C'est qu'en fait, on voit que cette prof, elle regarde cet enfant et qu'elle va le considérer, alors qu'il n'a pas de considération de la part de sa mère. Et même si elle s'y prend mal à un moment donné, Florence, elle le considère. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'on voit que l'école, c'est pas juste un endroit où on apprend des connaissances intellectuelles, mais c'est un des premiers lieux peut-être aussi où on construit son rapport à soi-même. Alors, et ça, je trouve que dans le film, on le voit, quoi.
Dans le bravo, petit Sacha. Quand vous dites, vous n'avez pas assez valorisé tel élève, fallait lui dire que la logique du calcul était peut-être pas la bonne, mais c'était une solution. Fallait lui dire bravo. Il y a un passage important.
Mais c'est un endroit, en fait, l'école, c'est un endroit où on se construit peut-être même plus que dans sa famille.
Ah, ben c'est là où on construit la société, la vie en société, c'est sûr.
Audrey Chaplin, ce que vous dites.
Audrey Chaplin, non, c'est beau, ça s'appelle le prof mise à nu du travail d'une enseignante, mais qui peut servir aussi aux parents à comprendre aussi dans quel contexte ils déposent les enfants.
Côté un peu autobiographique, hein, c'est le récit d'une expérience
personnelle
et professionnelle. Tu racontes
ta vie, quoi.
Exactement.
Tu racontes un petit peu ta vie.
C'est Jean Larmattan et c'est Audrey Chaplin et elle nous confirme que Primaire est un film juste, en tout cas, qui résonne bien et qui sortira ce mercredi 4 sur tous les écrans avec Sarah Forestier et Vincent Elbaz qui sont nos invités jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale dans cette émission avec Leïla Kadouboudedi, Nora Mzaoui, Tom Villa, Daniel Morin, Richard Wall qui accompagne au pionnier, et nos invités Sarah Forestier et Vincent Elbaz. Nous parlons de... Nous parlons de Primaire, ce film donc d'Hélène Angèle qui sort ce 4 janvier, mercredi, dans deux dodos. Vous pourrez aller voir ce film avec beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes, même plus d'enfants que d'adultes dans le film. Des enfants qui ont été castés et ça avait l'air d'être une surprise même pour Sarah Forestier et ça l'est également pour nous, tellement ils sont justes, tellement on croit vraiment être dans un documentaire de classe de CM2. Il y a tout, il y a le faillot, il y a l'élève un peu perdu, il y a le fils de la prof, ça c'est un peu plus rare peut-être, mais
il y a
en tout
celle
cas...
qui cache qui sait pas lire aussi.
Voilà.
Ouais. Ça c'est au tout début du film. Ouais. Ça c'est assez fort aussi sur cette petite fille qui parce qu'elle a appris avec la méthode globale et en fait elle a pas réussi vraiment à saisir au-delà de la méthode syllabique et elle a arnaqué un peu tout le monde en faisant du par cœur.
Sauf que l'intelligence de cette professeure est de revenir avec un vieux livre de l'éducation.
Ah bah elle essaye toutes les méthodes.
La méthode Bauchet.
Exactement.
Elle essaye tout, c'est-à-dire qu'elle essaye tout et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que dans ce métier toute la partie théorique c'est bien beau de parler du métier de prof mais en fait quand on est dans le concret, en fait, c'est ça. C'est du, on bricole, voilà, exactement.
C'est la scène d'ouverture du film d'ailleurs. Je me souviens quand j'ai découvert le film, j'ai eu des frissons quoi. La scène, je la trouve exceptionnelle cette scène. J'adore cette scène parce que Sarah, elle est à la fois bienveillante avec cette môme, mais en même temps, elle est assez distanciée, elle est assez dure. C'est étonnant ce qu'elle fait. Mmh. Elle est pas dans le pathos du tout en tant qu'actrice. La scène, elle est bouleversante.
On imagine que les profs doivent finalement réellement être comme ça, c'est-à-dire être attentionnés et proches, mais ne pas trop.
Je pense surtout qu'elle est agacée.
Personnaliser le rapport pour se protéger soi-même déjà.
Elle est même démunie. Elle est même démunie à un moment donné de se rendre compte que c'est un
enfant. C'est moi qui l'ai interprété. Tu sais ce qu'elle ressent.
Et moi je l'ai vu. Moi
je suis spectateur. Elle a triché.
Non, je rigole. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense surtout.
C'est le spectateur qui a toujours raison.
Ça c'est vrai. Non, mais j'ai l'impression surtout qu'elle est agacée. Par l'idée, on sent qu'en fait elle est agacée par l'idée d'un échec, cette femme. Et que cette fille ait pu, que cet élève ait pu cacher qu'elle savait pas lire. En fait, elle peut pas cacher son agacement, en fait. C'est pour ça qu'elle est un peu dure avec elle, c'est qu'elle se dit, mais c'est pas possible. Elle est en CM2, elle sait pas lire.
Elle peut pas sortir de ma classe sans savoir lire.
Ah, elle termine en disant, personne ne sort de ma classe sans savoir lire, même pas en rêve.
Ouais. Et en même temps, elle a la main sur ça, sur cette problématique-là. Alors que pour Sacha, c'est bien ça, l'autre élève. Ouais. Là, elle est plus démunie, elle est plus perdue. Donc j'ai l'impression qu'elle compense aussi.
La voix que vous entendez, celle d'Audrey Chaplin, donc notre professeur qui était venu tout à l'heure et à qui nous avons déjà dit au revoir, mais qui revient nous, continuer de nous parler. Mais vous êtes la bienvenue, Audrey.
Allez, au coin, Audrey. Allez.
Non, je reprécise.
Lève la main, Audrey.
L'auditeur choisir, mais qu'est-ce juste une petite question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. En moyenne, quel est le salaire d'un prof aujourd'hui?
Alors là, c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais ça dépend
d'une
petit peu.
D'une maîtresse en primaire.
Alors en primaire, j'ai au pas début. Les données par contre, en début.
Je crois que ça doit être 1300 euros.
Voilà, au début.
Et ça tu te régales, hein. 1300 euros.
Après, dans le secondaire, nous, on évolue un peu plus vite. Et puis on peut avoir des missions particulières qui viennent aussi compléter.
Voilà, il y a une différence. Les cours après qui sont payés, mais pas certains, pas tous.
Moi, ça fait longtemps que j'ai fait le tournage. Hein, si tu veux que je te dise des trucs spécialisés,
puis, tous les noms, mais parce que c'est très compliqué aussi dans le statut. C'est-à-dire dans le secondaire, on peut être aussi agrégé. Donc là, il y a encore
moins d'heures, mais
mieux payé. Etc.
Et puis les études, les heures d'études.
C'est pour rappeler que c'est un vrai choix aussi.
Et rappelons que les vacances scolaires.
Et que c'est pas du tout l'argent qui est le moteur.
Et rappelons que les vacances scolaires, vous savez, c'est 2 mois de vacances que beaucoup envient aux professeurs, ne sont pas en fait payés. Le salaire d'un professeur, c'est 10 mois dans l'année étalé sur 12. Donc ça explique aussi la rémunération.
Il
n'y
a pas 2 mois
mensuelle.
De vacances payées. Ouais,
non, c'est
ça.
Pas. Non.
Quand même, il ramasse pas mal.
Je voudrais revenir sur la manière dont le film a été tourné avec Yves Angelo, qui est l'un des plus grands dire-faute de la place.
Et un grand metteur en scène aussi.
Voilà. Ouais. Et là, son rôle, ça s'est fait avec. Deux caméras pour pouvoir saisir des réactions, pour pouvoir filmer comme
ils
un documentaire.
Ils ont volé pas mal de choses au petit, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'ils
compris les répètes, j'ai appris ça aussi.
Oui, bah, de toute façon, c'est l'arnaque classique, ça. C'est génial, mais ça marche quand même, parce que c'est vrai, c'est des enfants. Donc, en fait, bah oui, on leur disait qu'on répétait, mais en fait, on tournait. Ou bien, on disait qu'on tournait sur Paul, et puis en fait, on filmait Jacques. Voilà. Ouais. Mais moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. J'ai juste fait mon job, je l'ai laissé Arnaud qui est petit.
Non, la mise en scène, elle est magnifique aussi, parce qu'on sent très peu la caméra. Moi, j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai découvert le film. Mais j'ai peu de jours sur ce film, j'ai fait 10 jours de tournage. Mais quand j'ai découvert le film, j'ai adoré cette mise en scène d'Hélène Angèle. On sent très peu la présence de la caméra, c'est très subtil.
Elle est très fluide, en tout cas.
Oui. Elle a fait des choix de se mettre à la hauteur des enfants, par exemple, et à la hauteur des adultes. Il y a un rapport, par exemple, dans le scénario. Quand j'ai lu le scénario, j'avais adoré le fait que le savoir, il est des deux côtés. C'est un échange. Et elle l'a traduit dans la mise en scène. Et jamais, vous verrez qu'il n'y a jamais un plan en contre-plongée d'un adulte sur un enfant.
Un regard hautain
sur
ça.
Un adulte, voilà.
C'est pas de toute façon, les enfants vivent des émotions même d'adultes. Ouais. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pour ça qu'il est extraordinaire, Albert, là, celui qui joue mon fils, là. Il est...
Albert Cousy.
Ah ouais, parce que les enfants sont... C'est des vrais enfants comme dans la vraie vie, quoi. C'est pas comme dans les enfants dans les films, ouais. Sur les petits gamins et tout ça. C'est-à-dire quand ils pleurent, c'est pas juste... Il pleure déjà, ce que je trouve extraordinaire. Il pleure de colère dans le film. Là, la scène, elle est incroyable. Il pleure de colère. Et quand il était venu et qu'il a fait le casting, il arrive. Moi, je savais pas qu'il allait être dans cet état, le petit. Il arrive au casting et donc c'est une scène où il s'énerve. Il dit à sa mère : tu t'occupes plus des autres enfants, tu penses qu'à l'école, t'es trop dans ton métier, tu t'occupes pas de moi. Et il a envie de partir rejoindre son père qui vit donc dans des Ajava.
La scène est d'ailleurs dans la bande-annonce, ouais.
Voilà, et quand il a fait le casting, il a commencé à me hurler dessus, il est devenu tout rouge, et il y a des larmes qui ont coulé sur son visage, et enfin voilà, c'est pas une chialerie d'enfant, quoi, il avait une émotion très intense, et dans le film, et c'est ça, quoi, c'est des vrais enfants.
Ça s'appelle Primaire, donc, et ça sort ce mercredi. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Ah, quand même.
À 30 enfants.
Bravo Daniel.
Oh, merci. Bonjour les amis. Ah, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sarah, bonjour Vincent, bonjour Audrey.
Mais il serait temps que tu dises bonjour.
Bonjour le public. Ah putain, il y en a moins. Hein. Le froid a fait des dégâts. Pas de George Michael qui est mort congelé. Nagui, vous m'avez tellement manqué. Oh Leïla, tu m'as manqué aussi.
Moi aussi un peu beaucoup.
Tom, Ça va, Tom? Bah, bonjour et bonne année, hein, les petits amis. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bu sans modération, que vous avez consommé à outrance, que vous avez couché comme des bêtes, style BNP, quoi. Oui.
Ou dans une Twingo rose.
Ou dans une Twingo rose, une BNP rose. Ah, j'espère que vous avez baigné, voire sombré dans l'excès, vu ce qui nous attend. En 2017, pollution de l'air avec les particules fines, pollution politique avec Marine, présidente le 7 mai prochain, la grosse particule. Bref, autant être dans une condition physique déplorable si on doit assister à tout ça, parce que quand on voit le carnage, espérons le voir de façon un petit peu plus floue. En fait, pour vous dire toute la vérité, je crois que je m'ennuie. Mais j'ai l'impression que ma vie est tiède. Pire, tiédasse. Quand j'ai regardé les vœux de François Hollande, j'ai eu comme un coup de spleen. Mais qu'est-ce que je m'emmerde dans ce pays à la mort moelleux. Il n'y a pas d'enjeu, pas de perspective, pas de projet collectif. Ce week-end, Kim Jong-un a présenté ses vœux lui aussi. Bah, je peux vous dire, c'est autre chose, les vœux de la bonne année chez le leader nord-coréen. Lui a des projets pour son pays. Il a annoncé qu'il allait bientôt tester un missile longue portée qui permettra à la Corée du Nord d'atteindre le Japon, voire les États-Unis. Voilà, ça c'est du projet national, ça c'est de l'élan citoyen, ça c'est de la perspective patriotique qui rassemble, qui unit et qui fond dans un creuset commun les espoirs et les rêves de tout un peuple, toute classe confondue. En même temps, c'est pratique, il n'y a qu'une seule classe là-bas, c'est les pauvres. Enfin merde, fallait qu'il fasse un discours comme ça, Hollande. Ça aurait eu de la gueule, ça aurait donné un coup de boost moral d'une France accablée qui va de la léthargie au vague à l'âme. Hollande nous aurait dit, en 2017, on va attaquer la Belgique, on va détruire la Suisse, on va envahir l'Espagne. Eh bien, croyez-moi, le français de base que je suis aurait trouvé de l'allant et de la joie de vivre. Heureusement, non mais heureusement que vous êtes là, mon bon Nagui. Vous êtes là pour nous donner un peu d'espoir dans ce monde de crevards. Oui, chers auditeurs, je vais le dire, je m'en fous, je le dis, sachez-le. Nagui est formidable. Nagui est un formidable remède contre la mélancolie. Sa générosité agit comme un baume cicatrisant sur les plaies de nos infortunes et de nos désillusions.
On va attendre la fin de la phrase.
Tenez, un exemple est parlant. Pour le réveillon, celui du jour de l'an, Nagui, il s'est pas contenté de louer une salle de bal pour faire gâcher ses 37 000 salariés avec une bouteille de mousse pour 10. Non. Nagui voit les choses en grand. Nagui, pour le nouvel an, il a loué Paris. La ville en entier. À partir de 22h, tout ce qui était à l'intérieur du périph', c'était à Nagui. Open bar dans toute la capitale, tout gratos, sur présentation du bracelet à paillettes sur lequel était inscrit en fluo Nagui's Night. Attendez, vers 2h, je suis passé. Par hasard, vers Pigalle. Et bien pareil,
En Twingo rose.
Exactement. Il y a une fille qui m'a abordé. Eh hey, Minou, ça te dit un petit massage avec finition pour fêter 2017? Oh non, merci madame, mais je n'ai plus un sou sur moi. Mais non, t'as le bracelet Nagui's Night, pour toi c'est gratuit. Minou, c'était mon petit nom. Comme tous ceux qui sont passés après, d'ailleurs. Et puis hier, retour à la vie normale, pour ne pas dire à la misère. Le train lancinant de mon ennui m'a rattrapé dès le réveil ce matin. Vivement 2018. À demain.
Merci
également. Sur France Inter.
Votre premier film, Sarah Forestier, en tant que réalisatrice, sortira, vous avez déjà la date, ça s'appelle M.
Oui, c'est une lettre, ouais. La lettre M.
M pour Momo, voiture rose?
Non, pas du tout.
Et donc,
pour M le maudit.
Très bien.
Chercher.
Très bien. Enfin, il s'appelle Mo quand même dans le film.
Il s'appelle Mo, ouais, c'est vrai.
D'accord. Et ça sortira quand?
Il dit Mo, parce que Momo, ça fait trop Mo à mettre couscous quand il pète, ça fait de la mousse. Mo tout court sec.
Mo. Okay. Et voilà, ça Mo. Et sort quand? À peu près.
En 2017, quoi. Je sais pas, je suis encore en montage.
Ah, d'accord, ok. Un film plus proche de nous, le 18 janvier prochain, on a tous hâte de le voir. Il a déjà tes yeux. Le film 2 est avec Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga. On recevra d'ailleurs Aïssa Maïga et Lucien Jean-Baptiste pour ce film. Vous y faites quel personnage?
Je fais le parrain du petit bébé là qu'ils adoptent. Il s'appelle Manu. Je sais pas comment décrire Manu. C'est un mec complètement à l'ouest, à côté de ses pompes, qui est assez poétique.
Vous l'avez déjà vu le film ou pas vous?
Ouais, je l'ai vu. Ouais.
J'adore ça.
Qui a pris trop de produits quand qui a arrêté tout, il prend plus rien. Mais enfin, voilà.
il a de la réserve. Il y a plein de films que vous venez de tourner. Il y a le film de Serge Azanavicius, tout là-haut avec Kev Adams, Mélanie Vernier,
Bernice Bejo. Je joue un guide de monde de haute montagne. Ouais.
Qui sortira?
Il sortira en décembre 2017.
Oh, ça va, on a le temps d'en parler. Remise de peine de Pierre Savadori?
Ça, je vais commencer à tourner là.
Ah, d'accord.
Après les fêtes.
Daddy Cool?
C'est tourné, ça sortira en 2017, par les fins en décembre.
Ah oui, donc ça, vous n'arrêtez
une
pas.
Comédie romantique.
C'est gentil de trouver le temps de venir nous voir, c'est cool. voici le brouillon de culture pour nos invités par Leïla Kadour-Boudadi.
Oui, Vincent, Sarah, Vincent, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Vincent.
Il portait un vieux frac noir, complètement en loques, dont les boutons étaient tombés. Un seul tenait encore, à peine, et c'est ce bouton-là qui lui servait à se boutonner, lui qui visiblement ne voulait pas déroger aux convenances.
C'est un extrait de Crime et Châtiment de Dostoïevski, et j'ai lu que vous...
De... Non, je reconnais la voix.
Ça m'échappe. Et j'ai lu que vous rêviez
Raymond aussi, c'est
un... oui. d'incarner Raskolnikov.
C'est un héros. Roman de Chevet. Ouais.
Le héros, plutôt l'anti-héros de ce roman. Vous avez. Comment est-ce qu'on pourrait concrétiser cette envie? Ça serait sur scène, ça serait.
Mais je trouve que l'écriture de Dostoïevski est très cinématographique pour le coup. Donc je. Une adaptation moderne, ça me plairait.
Un téléfilm, un film.
Un film plutôt. Ouais. Il faut la démesure du cinéma pour ça.
Il faudrait...
Parce que le petit écran de la télé, c'est pas assez... Il n'y a pas assez de souffle.
Et alors derrière la caméra, il faudrait qui? Justement, si on se fait...
C'est dans le truc idyllique.
Eh ben oui. On rêve là, on peut y aller.
Je rêve, putain. C'est Abdelatif Kechiche.
Abdelatif Kechiche?
Ouais. Il faut un génie pour faire ça. Il faut un fou, mais qui a une puissance créative. Il faut quelqu'un dont la folie soit puissance créative. C'est là où la folie est intéressante.
Et il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a beaucoup des fous dans ce métier. Ici. Il y en a pas mal.
Et il y a d'autres héros que vous aimeriez incarner comme ça, qui vous questionnent. Même chose, Sarah. Un héros historique.
Je suis pas trop dans le fantasme comme ça. Moi, c'est marrant. Par exemple, j'ai voulu faire ce métier parce que je jouais avec mes frères, qu'on construisait des cabanes et que je jouais la comédie. J'aimais ça, mais j'avais pas de référence en fait d'actrice, d'acteur. J'ai jamais été dans un truc de fantasme. Mais pareil pour les rôles. Je fantasme pas de travailler avec des gens ou je fantasme pas sur des rôles.
Ouais. Non, pas ce rapport-là du tout. Une figure historique où vous dites tiens.
Par contre, celui de réaliser votre propre film, c'était un fantasme, ça.
Ouais, il y a des choses qui m'obsèdent, comme ça, des histoires, en fait. Mais d'ailleurs, je suis plus histoire que rôle, moi. Quand je fais un film, c'est parce qu'il y a un sujet qui me parle. Là, je trouvais que la problématique dans Primaire de se dire jusqu'où peut aller l'école pour sauver un enfant. Ça me plaisait, mais c'est des questions comme ça qui me taraudent, des trucs, mais pas des rôles.
Même chose dans Le Nom des gens, c'était ça aussi.
Oui, j'adorais l'idée de dire que...
L'engagement politique, la politique, la sexualité...
Oui, une fille qui couche avec des hommes de droite pour les convertir à gauche. Ça me suffit, moi, c'est un pitch qui me parle.
Il y a du travail en ce moment, non?
Hein?
Il y a du travail en ce moment.
Non, mais c'est la déprime totale. Non, mais c'est même pas possible. D'ailleurs, ce film, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire aujourd'hui. Parce que plus personne croit en la gauche. Donc ça aurait été juste une pute en fait. Une pute politique, juste grosse pute. C'est tout. Même plus d'idéaux quoi. Non mais c'est la déprime totale, faut dire la vérité quand même. Non mais c'est vrai. Quelle alternative on a au capitalisme comme ça, total, au libéralisme sans mesure? On a quoi comme alternative? C'est du capitalisme, c'est tout. Il y a rien d'autre.
Vous appréhendez les prochaines présidentielles avec crainte?
Non, moi je trouve que ce qui est pire, c'est...
Bon, j'ai été m'inscrire, quoi. Il y a eu une recrudescence d'inscriptions sur les listes électorales.
Vous aviez jusqu'à hier minuit pour le faire.
Parce que j'ai lu que c'est intéressant, que c'est l'élection de Trump qui fait flipper tout le monde. Tout d'un coup, mais nous aussi, on peut se retrouver avec une Trumpette.
Il y a vraiment eu des inscriptions.
Il y a une recrudescence en masse. Donc du coup, c'est plutôt... Après... j'ai envie d'un.
Ce qui est bien,
on change de système, mais bon.
Ce qui est bien, c'est que les gens aillent voter. Après, peu importe le résultat, l'important, c'est au moins que personne ne soit manipulé.
Moi, je trouve pas que ce soit les élections.
Les votes blancs comptent pas, donc c'est emmerdant.
C'est dommage,
Je trouve pas que c'est les élections qui fassent peur. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a là maintenant, avant, quoi. Là, on a le choix entre quoi et quoi. Sans déconner, pas grand chose, quoi.
Pour l'instant, on sait pas qui est candidat, donc on peut pas savoir.
Oui, mais bon, c'est les mêmes partis. Donc. Bon, je sais pas. Moi, je trouve que la déprime, elle est là, quoi. Elle est. C'est pas juste tout d'un coup. Ah, il y a un jour J. C'est comme quand on va fêter le 31 décembre. Ah, il y a un jour qui cristallise tout. Non, rien du tout. Si on change pas les choses avant.
Enfin, moi, j'ai essayé un réveillon le 22. Personne n'est venu. Hein.
Oui, mais c'est dans la durée. Il faut être endurant. Faut choisir un truc, hein. C'est bien quand ça dure.
Le côté justement, il y en a marre des partis et sortons du système, ça donne du Donald Trump.
Non, c'est pas, il y en a marre des partis. C'est juste qu'est-ce qu'on propose de différent. C'est-à-dire, enfin, là, la gauche, la droite, c'est du capitalisme, c'est tout. Et donc, il y a quoi pour t'empirer.
La planète entière, c'est du capitalisme.
Bah oui, mais on voit bien que ça rend les gens malheureux quand même. Pourquoi les gens ils votent, ils veulent revenir à un truc plus national, etc., etc. C'est qu'il y a le capitalisme, ça déshumanise les choses. Quand il est à outrance, quand il n'est pas tempéré par du vrai socialisme. Et voilà, ça déshumanise, les gens ne sont pas heureux.
Et bien justement, pour amener un peu de joie là-dedans, je vous fais un petit cadeau à chacun d'entre vous. Pour vous, Vincent, alors vous allez dire que c'est une idée fixe, mais je vous offre un bouquin qui s'appelle...
Je sais pas, j'ai pensé à vous, mais direct.
Weidmann, le tueur aux yeux de velours, de Philippe Randa. C'est une nouvelle édition French Pulp. C'est le dernier condamné guillotiné en place publique. Il était beau à mourir, mais il avait juste
un... C'est le cas de le dire.
Oui, il avait juste une petite maladie, c'est qu'on lui donnait un peu d'argent et ça ne lui posait pas de problème de tuer et dépouiller ceux qui avaient le malheur de croiser son chemin.
C'est intéressant, ça.
Et voilà, je me dis que ça, il y a peut-être de l'idée là-dedans.
Il faut une adaptation, c'est intéressant, c'est la genèse d'un tueur.
Vous voulez réaliser un jour ou pas vous ?
Pourquoi on devient tueur, comment,
Vincent,
etc.
Vous voulez réaliser un jour ?
Alors là, j'en suis pas du tout là. Non. Co-écrire, c'est pas mal. J'ai co-écrit un premier film là qu'on va tourner au mois de mars. Je suis déjà, je me suis engagé dans la co-écriture, ce qui est déjà énorme pour moi.
Et qui est l'autre du coup ?
C'est le Julien. C'est un film de Julien Veil, un premier film. C'est sa première réalisation pour le cinéma, et on a co-écrit ensemble avec un scénariste qui s'appelle Grégory Boutboul. Voilà.
Vous nous donnez des nouvelles ?
Qui fait rire. C'est un nom qui fait rire. C'est comme Mohamed.
Ça
fait rire.
Ça, c'est des clichés.
Un film d'auteur de Mohamed Boutboul.
Ça, c'est des clichés, Sarah.
C'est un cliché, je l'assume.
Et je finis avec un cadeau pour vous, Sarah. Je vous offre chez Dalida Le Temps d'aimer de Fabien Lecoeuvre et de Philippe Lorrain. Il va y avoir la sortie de Dalida bientôt. C'est aux éditions du Rocher. Finalement, on retraverse comme ça la vie de cette grande chanteuse dont le seul amour qui n'a pas été déçu, c'est celui qu'elle entretenait avec son public. Voilà. Avec de très très belles aquarelles sur.
Merci beaucoup.
Parfait. On vous encourage à voir Primaire, je vous le rappelle, film qui sort ce mercredi.
C'est un petit bijou.
Avec Sarah Forestier et Vincent Elbaz.
Ça va devenir un film référence sur l'école, je vous le garantis.
On en a parlé tout à l'heure avec Audrey Chaplin qui a signé prof, la mise à nu du travail d'une enseignante chez l'Armatan. Daniel Morin, on se rend bien compte que le métier de professeur est beau, c'est essentiel. On oublie souvent à quel point ça peut être dur, compliqué. C'est pas toujours facile.
Oh nom de Dieu, le best. Putain, 2017, année de la bête. Est-ce que c'est ce que vous êtes, monsieur Guy? Une bête, un animal, malin comme le fennec, ténueux comme le blaireau. Certains matins, odorant comme le putois, mais bon, ça va. C'est couvert par les odeurs de naphtaline qui émanent du public.
Vous êtes loin de se cracher dessus.
Ne bougez pas, ça se diffuse quand on bouge. Nom de Dieu, oh la vache. Vous êtes une bête, c'est vrai, même si ce matin on est plus proche du veau que du taureau, monsieur Guy. Désolé, mais vos propos sont affligeants de niaiserie post-syndicaliste. Je sais, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais je fais ce que je veux. En même temps, on devait s'y attendre. Un fils de prof comme vous, monsieur Guy, ne pouvait que participer au discours de désinformation de cette radio de profs aigris écoutée par des profs en arrêt maladie.
Non.
Le métier de prof, s'il est le plus beau du monde, c'est surtout parce que c'est un sacré boulot de feignasse, oui. Alors Audrey m'a bien fait rire tout à l'heure, 18 heures par semaine, tu parles 12 maximum. Des vacances la moitié de l'année, un boulot à vie, l'autorisation de coller les enfants, que du kiff, monsieur Guy. Et je suis bien placé pour en parler. Fut une époque, moi-même, j'étais prof. Eh oui.
Quelle horreur.
Prof de survie dans les Ardennes. Ardennes, région de France dévastée par la maladie, l'illettrisme et la pauvreté. Une région où il y a déjà des millions d'années, l'évolution de l'espèce avait jeté l'éponge. Bref, eh bien, n'empêche que chaque semaine, là-bas, dans le pays des Ardennes, payé par l'éducation nationale, j'en foutais pas une. En plus de l'argent, les gens me donnaient leur gibier, leurs fruits, leurs légumes, leurs filles. Bref, une vie de cocagne. Jamais je n'ai autant reçu pour donner aussi peu. Même ici, je travaille plus, c'est pour vous dire. Alors non, c'est pas dur comme métier. Non, c'est pas compliqué. Désolé, monsieur Guy, mais malheureusement, j'ai bien l'impression que le passage à la nouvelle année n'a rien changé. Aujourd'hui, vous avez encore dit...
N'importe quoi.
Merci, Daniel Morin.
Je vous en prie.
La bande originale.
Une cascade de questions pour Sarah Forestier, Vincent Elbaz, des questions courtes avec des réponses courtes. Et on commence par Leïla.
Oui, Sarah, est-ce que vous continuez à peindre à vos heures perdues?
Non, parce que je peignais des esprits et que j'en ai marre.
D'accord.
Tom Villa.
Vincent Elbaz, ouais. Avec primaire, Sarah Forestier a pris pleine conscience des instituteurs. Vous avez pris pleine conscience des livreurs de sushis ou pas?
Oui. Oui, oui. Bien sûr. J'ai préparé mon rôle.
Nora Mzaoui.
Oui, pour tous les deux, qu'est-ce que vous avez dîné hier soir? Qu'est-ce que vous avez dîné hier soir?
Oh putain, attends. Oh, ah bah ça m'intéresse. Spaghetti aux boulettes.
J'ai fini les restes du 31.
Ah ouais?
Oh putain, un dessert Cyril Lignac. Magnifique. Ah. Au chocolat.
Magnifique. Daniel Merci. Morin.
Votre dernière colère, Vincent. Grosse colère. Hein.
Non, je me mets pas très peu en colère. Si je me mets en colère, je vois rouge, je deviens fou, je suis incontrôlable.
D'accord, bon, c'est bon, calmez-vous. Je casse.
Là, Hulk.
Et vous, Sarah?
Moi, elle est rentrée. Et la vengeance, c'est un plat qui se mange surgelé.
Très bien.
Oula. D'accord. Ok, on va s'arrêter là, une fois que ça dérape. Des excuses à présenter, Daniel.
Mais bien sûr, et désolé en premier pour Micheline, la pauvre gardienne qui s'occupait de Sarah Forestier, dont l'hygiène corporelle a été quelque peu malmenée. Allez,
j'espère
Micheline.
Qu'elle est morte depuis, là, la pauvre.
Oh non.
Si elle n'est pas morte.
Mais attends, elle était super vieille, j'espère, et paix à son âme.
Si elle n'est pas morte, bonne résolution à venir. Peut-être, Micheline, une douche par semaine. Désolé pour tous les livreurs de sushis qui nous ont appelés pour regretter que l'on n'ait pas assez parlé du boulot de Vincent Elbaz dans le film. C'est vrai, je suis désolé qu'on ait pris. Justement, ce parti pris de le zapper. Désolé pour Peter Gabriel, les Bangles dans le travail et la carrière ont été tout simplement salopés par Sarah Forestier. Elle a préféré écouter I Am dans une Twingo rose avec un braqueur et c'est un choix. Et par conséquent, désolé pour la Société Générale ou encore le Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, c'était BNP.
Oui, c'est vrai, ils n'ont pas été cités. Ça s'appelle Primaire, ça sort ce mercredi. Merci Sarah Forestier, merci Vincent Elbaz. Portez-vous bien demain.
Merci.